Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Fin de match complètement folle ici au King Power.
Oh!
Et Jimmy Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussy.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. La semaine prochaine, nous allons vivre un derby de Manchester ô combien attendu à l'Etihad. On s'est donc dit qu'on était obligé d'en faire un podcast spécial. Bonjour Florent Moussy.
Bonjour à tous.
Bonjour Loïc Moreau.
Bonjour.
Dans quelques instants, Gaël Clichy également sera avec nous. Un match où les deux équipes ont le nom de la ville, oui. Quand on parle d'Everton, il n'y a pas le nom de la ville de Liverpool. Quand on parle de Chelsea, d'Arsenal, de Tottenham, de West Ham, il n'y a pas le nom de la ville de Londres. Quelques villes comme Barcelone, Madrid, Turin, Munich, allez, Sheffield si vous voulez, peuvent se targuer d'avoir un derby avec le nom de la ville dans la dénomination d'équipe. Et oui, c'est pas souvent. Et des histoires, il y en a et pas qu'un peu entre les Red Devils et les Sky Blues. Manchester, la ville d'un derby à part, c'est l'épisode 14 de PL Zone, le podcast. C'est parti.
Here comes Nasri, United all over the place, and City in front, and Edin Dzeko wheeling away, comes out to Giggs, what a pass, Michael Owen wins it in the most extraordinary way, Silver again, oh, resounding header, it's the captain,
20 seconds to play, Scholes, unbelievable, unbelievable, Paul Scholes,
Milner, Balotelli!
Rooney! Oh, wonderful! What a goal!
Kolarov. Oh, what a finish! Sergio Aguero!
Ah oui, ces noms de buteurs qui résonnent de nos têtes précisément, mais pour que ces noms résonnent, il faut un début. Et pour ce début, car oui, il y a beaucoup d'amitié entre ces deux clubs, il faut remonter au 12 novembre 1881, quand St. Mawks, qui s'appellera plus tard Manchester City, accueille Newton Heath, qui deviendra Manchester United par la suite. St. Mawks, créé en 1880 par des membres d'une église locale, avait un objectif, trouver une activité au jeune homme qui, pour certains, tombait dans la délinquance. Newton Heath étant créé 2 ans auparavant par des employés de la compagnie locale des chemins de fer. Le premier match, donc, en 1881, remporté 3-0 par Newton Heath. Le Ashton Reporter, journal local, dira le lendemain que ce match était sympathique. Des changements de nom, il y en aura, avec Newton Heath qui deviendra Manchester United en 1902. St. Mark's deviendra Hardwick, puis Manchester City en 1894. Donc avant, d'ailleurs, l'histoire retient que c'est Manchester City qui a gagné le premier gros titre de la ville, une FA Cup en 1804. Loïc, je vous passe la main parce que depuis ce temps-là, United a rattrapé quelque peu son retard.
Oui, quelque peu, oui, effectivement. Sur les, justement, il y a eu 186 derbies de Manchester qui ont été joués dans l'histoire, toutes compétitions confondues. Et c'est Manchester United qui, évidemment, a l'avantage, 41% de victoires. Derrière Manchester City, 30% de victoires. Et le reste de la portion est dédié au match nul, 29%. Il y en a eu donc beaucoup, quasiment autant de nuls que de victoires de Manchester City. Mais effectivement, c'est Manchester United qui a l'avantage dans ces rencontres. Mais pas tant que ça. On a regardé, il n'y a pas eu de série de dingue, même au travers de l'histoire. Même quand Manchester United a été très dominateur par rapport à Manchester City, il n'y a jamais eu vraiment d'emprise totale sur les derbies de Manchester, et encore moins, bien évidemment, depuis que City a été racheté en 2008.
Oui, d'ailleurs, on en reparlera la semaine prochaine sur RMC Sport à l'occasion de ce derby. On verra aussi que parfois, on a l'impression qu'une équipe est beaucoup plus forte que l'autre. Et au final, l'autre équipe, la plus petite ou celle qui, sur le moment, est la plus petite, réussit des coups. Bah, United, ces dernières saisons, face à un City qui semble dominateur, bah, United a réussi des coups à l'Etihad. En tout cas, ce qui est sûr, Flora, c'est que ce match, là où dans les années 80, 90, même début des années 2000, les gros matchs, on pensait plus à United Arsenal, Chelsea United, etc. Bah, petit à petit, ce match qui était moindre est devenu important.
Bah, il était moindre parce que voilà, les deux équipes évoluaient pas dans la même sphère.
Absolument.
Forcément, c'était plus compliqué. Mais le derby de Manchester reste l'un des plus gros matchs, évidemment, d'Angleterre, mais aussi en Europe. Il y a des millions de téléspectateurs à chaque fois pour regarder ce match-là. Ça fait partie, en fait, des matchs qu'on coche dans le calendrier, que ce soit le Classico en Espagne, que ce soit... Voilà, ça fait partie de ces matchs-là dans toute l'Europe, dans le monde entier. On coche ce match-là en se disant, il faut le regarder parce que, comme tu le dis, en fait, Salim, c'est le genre de match où, oui, sur le papier, il y a forcément un déséquilibre, on le voit cette saison, et entre United et City, City qui surdomine et United qui a une inconstance absolument criante. Et pourtant, on sait pertinemment que sur ce genre de match-là, il peut tout se passer et que United l'a montré ces dernières années, est capable de renverser City à un moment où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a un moment où United peut le faire, c'est dans le derby, parce que le reste, on n'est pas très sûr. Quand même.
Rivalité sportive, mais pas que, Loïc.
Oui, non, mais effectivement, déjà, je pense qu'il y a une différence d'appréhension entre les deux Manchester. C'est vrai que pour Manchester United, je parle sous le contrôle de Flora, le rival absolu, c'est Liverpool. C'est l'équipe
en termes sportifs.
Voilà. Oui. Disons que Liverpool viendra avant Manchester City en termes de rivalité, mais par contre, pour Manchester City, le rival absolu, c'est United. Mm. Et c'est vrai que cette rivalité, on la retrouve bien évidemment sur le terrain sportif, comme on l'a dit. Après, ça va même plus loin, même au niveau culturel. On sait que Manchester, notamment dans les années 80-90, c'est une des capitales mondiales de la culture en termes de rock, notamment en termes de musique. Il y a des choses qui vont se passer, des choses dingues qui vont se passer là-bas. Et même sur le terrain musical, justement, il y a les Stone Roses qui sont un grand groupe de Manchester, dont le leader Ian Brown est un fan invétéré de Manchester United et qui a inspiré notamment Liam Gallagher, les frères Gallagher aussi, Noël, pour les futurs leaders d'Oasis. Et pourtant, on le sait, Oasis, c'est Manchester City. C'est... Oui. Donc même là, il y a des rivalités. On sent que, on a vu plusieurs fois, c'était assez marrant quand Gary Neville, donc, qui était déjà consultant, a rencontré Noël Gallagher. À chaque fois, il y avait des crottes de nez qui partaient dans les deux sens parce qu'on sent quand même que voilà, c'est...
Tu sais, tu visualises.
Faut pas trop demander.
Ouais, c'est des enfants, hein, forcément. C'est toujours... Ouais, il y a une vraie rivalité entre les deux. Et on se souvient, des fois, ça peut être justement de mauvais goût. Je cite, pour exemple, la signature d'Uwe Rösler. Alors, vous vous souvenez peut-être pas de ce personnage-là. C'est un footballeur allemand qui rejoint Manchester City en 95. Et lors de sa présentation, il va porter un T-shirt sur lequel est écrit « Rösler's granddad bombed Old Trafford on the 11th of March 1941. Donc en gros, pour vous traduire, hein, c'est pas compliqué, le grand-père de Rösler a bombardé Old Trafford le 11 mars 1941. C'est validé par le club, hein, c'est pas quelque chose. Donc c'est au final, on voit aussi que parfois la rivalité, elle est limite. Hein, c'est-à-dire que c'est comme dans tous les derbies, parfois ça va un petit peu loin. Quoi.
Oui,
ça
on peut dire parfois il y a des imbéciles aussi, hein, de part et d'autre dans ce genre de derby. En tout cas, ces derbies, il y a surtout eu des matchs dans ce derby entre Manchester et Manchester, des matchs qui ont marqué les histoires, les esprits. On en a choisi quelques-uns. Exemple, une rencontre en 2009. La séquence dure 23 secondes et c'est affolant comme un commentaire télé passe bien en radio.
Is there a final twist? Not with a free kick like that. Rooney hoists it. Ferdinand beneath it. Comes out to Giggs. What a pass! Michael Owen wins it in the most extraordinary way!
Victoire historique, 4 buts à 3 de United sur City à Old Trafford. Michael Owen, vous l'avez entendu, qui marque à la dernière seconde. Il y avait eu un doublé de Craig Bellamy, un doublé de Darren Fletcher.
Déjà ça, c'est pas probable.
Oui, c'est vrai. Un Ben Foster ce jour-là qui n'avait pas été au top de la cage
ben
de Manchester.
Ben Foster, Bellamy,
voilà. Darren Fletcher qui marque un doublé, qui obtient d'ailleurs le titre de meilleur joueur sur cette rencontre-là. Je me souviens d'ailleurs avant le match, Ferguson très irrité parce qu'on le taquinait sur le derby de Manchester et devant les journalistes, il expliquait que pour lui, le gros match, le big game pour United, c'était contre Liverpool, ce qu'on évoquait il y a quelques instants, et non Manchester City. C'est vrai que ce match, Flora, Oui, on est plusieurs années après, on l'a dit, c'est en 2009, on est en 2022, mais il a marqué les esprits pour encore de nombreuses années.
Mais bien sûr, mais parce que, alors déjà, rien que le scénario dans n'importe quel match, ce serait dingue, avoir ce 3 partout et avoir le but du 4-3 dans les dernières secondes, on a la 96e, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà, le scénario est fou. Quand vous transposez ça, en plus, dans le derby de Manchester, à Old Trafford, avec la victoire de United, et avec Michael Owen qui marque ce but, Michael Owen qui était l'ennemi juré à Liverpool, qui se retrouve à United, qui se retrouve avec le numéro 7 parce que Cristiano Ronaldo vient de partir au Real Madrid, il récupère le numéro 7 et en plus il marque le but de la victoire qui sera peut-être son seul fait d'arme à Manchester, on va pas se mentir, mais rien que pour ça les supporters sont contents qu'il soit venu et puis United est champion à la fin de la saison, donc c'est totalement fou.
C'est vrai, ce jour-là, c'était une dinguerie de voir Michael Owen réussir cela. D'ailleurs, on parle de... Alors, j'utilise le terme que je ne devrais pas utiliser, que je n'aime pas utiliser, ce terme de traître, parce que apparemment, quand on joue dans un club, on n'a pas le droit de jouer dans le club adverse ou autre. Michael Owen, donc, a porté ce maillot de United après avoir porté celui de Liverpool auparavant. Carlos Tevez, qui a porté pendant de nombreuses années United et qui a porté celui de Manchester City. Mais Loïc Moreau, on va rappeler, c'est pas le premier Carlos Tevez à l'avoir fait.
C'est pas le premier, mais c'est vrai que parmi les 5 joueurs donc, qui ont porté les couleurs des deux Manchester dans l'ère Premier League, Carlos Tevez, c'est le seul qui a mieux réussi du côté Citizen que du côté Red Devils, quand on regarde ces chiffres en termes de buts toutes les X minutes. Alors certes...
Peut-être pas en termes de titres, quoi.
En termes de titre, effectivement, il gagne la Champions avec Manchester United. Donc, effectivement, il
n'est pas venu pour rien.
Non, il n'est pas venu pour rien, clairement pas. Mais disons que c'est même, pour le coup, c'est même Manchester qui perd au chance, puisqu'il tarde à le prolonger, Carlos Tevez. Il tarde trop. Lui, il voulait prolonger avec Manchester United, mais finalement, ne voyant rien venir, comme il appartenait en plus à un agent à l'époque, c'était un peu trouble, voilà, sa situation. Et bien, finalement, à un moment donné, il va perdre patience. City va se manifester, le faire signer. Effectivement, on parlait de la rivalité tout à l'heure. Quand il va signer à Manchester City, les supporters vont déployer une banderole Welcome to Manchester à Carlos Tevez.
Après, il est très limite aussi, Carlos Tevez. Enfin, il y a son personnage, il y a tout ça. C'était toujours un petit peu chaud avec Ferguson. Et il y a une image, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais City fête son titre de champion, donc la parade dans les rues de Manchester, etc. Et puis il y a un supporter qui tend une pancarte à Tevez. Et lui, évidemment, comme il ne réfléchit pas beaucoup, il la prend. Et en fait, sur cette pancarte, il y a marqué RIP. Fergie, donc Ferguson, autrement dit.
Rest in peace.
Celle-là.
Voilà, donc Ferguson qui avait dit en fait que Manchester City ne dépasserait jamais United. Les supporters en ont rigolé, si on peut appeler ça comme ça. Et Tevez a brandi cette pancarte. Le club s'est excusé, City s'est excusé, mais Tevez a toujours refusé de s'excuser pour ce geste en ayant cette phrase absolument géniale où il dit qui est Ferguson, c'est pas le président de l'Angleterre. Alors non, Carlos, il n'y a pas de président en Angleterre, effectivement. Ouais. Donc voilà, mais il y a ce côté très provoque chez Carlos Tevez.
On va rester sur Carlos Tevez de joueur, je crois que ça va être mieux pour le coup. Mais encore une fois, donc c'est pas le seul à avoir comme ça joué sous les deux couleurs. Il y en a qui ont beaucoup joué, d'autres beaucoup moins aussi.
Bah oui, forcément, on parle forcément. Celui peut-être auquel on pense le plus, c'est Peter Schmeichel, puisque c'est effectivement le gardien mythique de Manchester United. Alors lui, il ne va pas faire la bascule tout de suite. Il va d'abord aller au Sporting Lisbonne, après Manchester United, puis à Aston Villa et revenir à Manchester City. Alors, il a une petite stat sympa, Schmeichel, c'est qu'il est invaincu dans les 11 derbies qu'il a joué de part et d'autre. Donc, assez solide. Mais on se souvient aussi de l'image, parce qu'on parlait de la rivalité. Je parlais tout à l'heure de Gary Neville avec Noel Gallagher, mais dans les couloirs, lors du retour de Schmeichel du Manchester City, Manchester United, qui va y avoir après sa signature à City, on voit les deux hommes qui sont dans le couloir. Michael, grand sourire, qui va pour serrer la main de Neville. Neville le regarde, ne veut pas lui serrer la main. Et il s'expliquera par la suite, il dira « Moi, j'assume ». Il dit « Il n'avait aucune raison de signer à Manchester City, il aurait pu finir chez nous. »
Il a même dit que Schmeichel avait dit qu'il prendrait en fait sa retraite au moment où il a quitté United. Donc du coup, Neville a dit « J'ai pas compris, s'il devait continuer à jouer, autant qu'il reste à United. » Donc ça, il n'avait pas trop digéré.
Et puis comme ils ont eu des problèmes de gardien, c'est vrai, après Schmeichel, le temps de retrouver, on va dire, avec Edwin van der Sar, une certaine stabilité, c'était un petit peu compliqué. Donc il y a eu Peter Schmeichel, mais effectivement après Schmeichel, il fait une saison seulement avec City, et la plupart des anciens de United qui sont ensuite partis à Manchester City, soit directement soit indirectement en passant par d'autres clubs, on se rend compte qu'au final ils ont eu le climax de leur carrière, c'était avec United, et City c'était un peu pour la forme. On pense notamment à Andy Cole qui faisait partie, bien évidemment, c'était un des acteurs majeurs du triplé de 99 qui va finir finir à City. Alors lui, il évoquera des raisons familiales, c'était pour se rapprocher de sa famille. Il y a eu Owen Hargreaves, évidemment, aussi. Alors lui, c'est assez catastrophique en termes d'histoire, puisque Owen Hargreaves n'a joué qu'une saison à Manchester. C'était pas une saison pleine, mais où il était titulaire, avant de se blesser gravement et de voir sa carrière terminée. Au final, il jouera un match de PL avec City avant de prendre sa retraite. Et puis, il y a eu le cinquième larron, c'est Andrei Kanchelskis, c'est peut-être un peu moins connu, mais au début de l'ère Premier League, un attaquant qui était un titulaire chez Ferguson et qui va finir, alors lui, plus tard, ce sera au début des années 2000, mais il va faire 10 matchs de PL avec City et puis terminer, quoi.
Lui aurait aussi pu faire partie de cette liste. Rappelez-vous, Wayne Rooney, à un moment donné, il y avait son nom, la rumeur
tous
Wayne
les
Rooney
étés, non
qui pouvait arriver à Manchester City. Au final, il est resté chez les Rouges et son nom est forcément accolé à ce moment.
Scholes. Nani.
Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
Se retourner absolument affolant, c'est... Je sais pas vous, mais moi, quand je pense à ce but-là, il fait partie de ces buts dont on se souvient toute une vie. Le Zidane face au Bayer Leverkusen, presque Maradona face à l'Angleterre. Il y a des buts comme ça. En plus, c'est un moment. Au final, c'est un derby, une victoire 2-1 hein, ce jour-là pour United. C'est un but qui reste à vie, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est... En fait, il y a évidemment le contexte, évidemment tout ça, mais juste si on s'arrête sur la pureté et la beauté du geste, en fait, la beauté de ce but, il y a un moment... En plus, il est seul dans la surface. Enfin, il y a un truc totalement... Enfin, c'est presque un scénario de film, le truc. Il s'élance, on dirait un truc à la Olivier Tom, tu sais, genre le geste...
Ça, en plus, la balle est légèrement détournée.
Mais oui, non, mais c'est... T'as un moment de suspension totale où il est dans les airs, où il tente le geste et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, ça rentre pile en pleine lucarne. C'est magnifique. Et la célébration derrière, il est devant le cop, il lève les bras. Et je crois que c'est Nani qui vient et qui le soulève et tout. Mais il y a tout, en fait, dans ce moment-là. On se dit, mais... Waouh, quoi! C'est... Puis évidemment, le scénario et tout, mais le geste est tellement pur et tellement beau que ça reste évidemment dans la tête.
Hein. Ouais, c'est vrai, on en parlera avec Gaël Clichy dans un instant, mais c'est vrai que ce but-là, ce moment, vous l'avez dit, Wayne Rooney qui est au summum de sa carrière en quelque sorte, tout était fait pour que United puisse, marquer les esprits et montrer que United et que cette ville était encore rouge, quoi.
Oui, c'est ça, mais c'est toute la... Alors, Wayne Rooney, c'est évidemment, il y a eu toutes ces rumeurs pour partir du côté de City, etc., mais il reste foncièrement attaché à United et... Mais... Même pas tant attaché au club, mais je veux dire, c'est dans son caractère à lui de défendre jusqu'au bout le maillot pour lequel il joue. Et il a ce côté hargneux, cette rage. Enfin, il râlait constamment sur le terrain. Il est toujours en train d'aller vouloir se battre avec tout le monde. Donc, je pense que lui, peut-être plus qu'un autre, en tout cas à ce moment-là, à United, parce qu'on commence déjà un peu vers le déclin d'United à ce moment-là, où il y a moins de joueurs charismatiques. Et en fait, lui, il incarne totalement ça, où il comprend tout l'enjeu de ce derby. Il comprend ce que les supporters vivent, parce que c'est se faire chambrer le lendemain matin quand on va au boulot par le voisin qui est fan de City et pas d'United. Donc lui, il comprend tout ça, il a la portée de tout ça, il en a joué tellement que ça le marque, et que ce soit lui qui marque à ce moment-là, c'est un peu l'apothéose de tout ce moment, quoi.
Bonjour Gaël Clichy.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Gaël, il y a quelques instants, on évoquait ce but, ce retourné de Wayne Rooney face à Manchester City, un but historique. Alors même si vous n'y avez pas participé à ce match, puisque vous êtes arrivé quelques mois plus tard à City, ce but-là, vous vous en souvenez forcément.
Oui, on s'en souvient. Et puis pour le coup, pour avoir joué à City, j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que ça fait partie des buts au-delà de l'affiche que peut être City United. Ça reste un but qu'on a envie de voir presque à chaque match, mais c'est vrai que réaliser ça dans un tel match, bien sûr, ça fait couler un petit peu d'encre et puis ça reste dans la mémoire des gens, quoi.
Loïc Moreau, vous avez une responsabilité. Gaël Clichy dans les derbies, Manchester, c'est quoi en chiffres?
Bah, déjà, il faut rappeler que Manchester United, c'est l'adversaire que Gaël a le plus affronté dans sa carrière de footballeur, hein, 22 fois à égalité avec Tottenham. Donc comme il a joué à Arsenal, il y a eu souvent des Arsenal-Tottenham et des Manchester City-Manchester United pour Gaël. Malheureusement, c'est aussi l'adversaire contre lequel il a le plus perdu.
Aïe, il ne fallait pas le dire ça, Gaël, il va partir là.
Non, mais il a plus perdu avec Arsenal qu'avec Manchester City. Avec Manchester City, on a vu que la courbe s'infléchissait bizarrement. Et effectivement... l'une des 18 passes décisives délivrées par Gaël en Première Ligue est venue lors d'un derby de Manchester. C'était le 2 novembre 2014 pour le but de la victoire de Sergio Agüero, victoire 1-0. Donc voilà, Gaël, dans les derbies, ce n'est pas que ça, mais en chiffres. C'est ça.
Tiens, très rapidement, juste avant de poursuivre avec Gaël Clichy, les Français, au final, dans l'histoire des derbys, ça donne quoi ? Peut-être quel est le meilleur buteur, peut-être dans ces derbys-là, par exemple ?
Bah, sans trop de surprise, le meilleur buteur, c'est Eric Cantona. Eric Cantona qui a marqué les esprits, notamment au début de l'ère Première Ligue. On peut citer aussi notre consultant Nicolas Anelka, qui avait marqué, mais côté City, pour le coup. Récemment, Anthony Martial aussi a été assez en verve lors des derbys de Manchester. On a regardé, on a vu aussi une passe décisive d'Antoine Sibierski, passeur décisif pour Robbie Fowler lors d'un derby. Donc voilà, dans les joueurs français, Samir Nasri a également été à l'honneur. On l'a dit, Gaël également passeur décisif, Patrice Evra également. Ouais. C'est vrai que les Français qui ont marqué l'histoire des deux clubs, que ce soit United ou City, ont à chaque fois apporté leur contribution lors de ce match si important.
Bon, certes, Gaël Clichy a beaucoup perdu, on l'a entendu face à United, c'était surtout avec Arsenal, mais pas grave, parce que Gaël, il a participé à un derby historique.
Milner. Balotelli! And Milner. Balotelli! Two for City. Milner. Crisp from City. It's Richards. It's three. Sergio Aguero. Hernandez back to Fletcher. Lovely goal. Silva. That was Barry and Lescott, and Dzeko turns it in. It's Silva and it's five. 5-1. Here's Dzeko. Couldn't be six, could it? It could, you know. A seismic day in English football.
Ah oui, au moins un grand jour effectivement dans le football anglais, ce 6-1 historique, Gaël Clichy. Vous étiez titulaire, c'était votre premier match en tant que titulaire avec City en championnat, hein, dans ce derby. Est-ce que encore aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez participé à une rencontre historique, Gaël ?
Mais en fait, j'allais vous interrompre tout à l'heure, parce que c'est bien beau de donner des chiffres, mais j'allais dire que vous avez oublié ce derby-là. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel.
Mais on finit par le meilleur, vous inquiétez pas.
Alors, j'allais dire, mais en fait, c'est un supporter de United, le monsieur.
Ah non, ça, c'est la dame, c'est Flora. Moi, je ne suis pas supporter de United.
Moi, j'ai rien dit.
D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que c'était un jour assez spécial. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de matchs avec Arsenal. Et je pense qu'à Old Trafford, j'en ai pas gagné un, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était assez... Pour moi, c'était un petit peu la passion de pouvoir dans la ville de Manchester. Et puis au-delà, c'était vraiment l'explosion de City qui aujourd'hui est un club totalement différent. Mais c'est vrai que c'était important et j'ai eu peur que vous ne le mentionniez pas.
Non, vous inquiétez pas, Gaël. Ce machin, encore une fois, ce 6-1, on le mentionne, on le dit. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit, mais comment City a pu gagner ? Alors même s'il y avait un contexte, il y a eu un rouge, me semble-t-il, hein, côté United ce jour-là. Mais c'est vrai que cette domination, la prépa était particulière de la part de Mancini ce jour-là ?
Non, c'était une année qui était assez spéciale et puis c'était un groupe assez spécial aussi. Et comme je dis, je pense que c'était vraiment le moment où la puissance a un petit peu changé à Manchester, dans la ville de Manchester et puis au sein du championnat aussi en Angleterre. United, c'est une équipe qui a dominé pendant très, 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 très longtemps. Et c'est vrai que je pense que les débuts de City sont arrivés assez rapidement depuis le moment où il y a eu l'investissement. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on a senti une progression en tout cas de Manchester City. Contrairement à United, qui, après le départ de Ferguson, a eu un petit peu de mal. Et on peut le voir, a toujours un petit peu de mal. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la passion de pouvoir. Et c'était un match que, bien entendu, qu'on se rappelle et puis qu'on a apprécié, quoi.
Ouais, puis on se rappelle du Why Always Me aussi, de Mario Balotelli. C'est ce genre-là.
Vous le saviez qu'il avait ça en dessous de son t-shirt, Gaël ?
Oui, on l'avait vu. Vous savez, Mario, il vit pour ces moments-là. Donc, au final, vous le connaissez autant que moi. Mais c'est vrai que c'est des moments... C'est le moment. Puis au final, on se dit que c'est un peu comme la passe de Balotelli pour Agüero pour le dernier but. On se dit qu'en fait, voilà, c'est un joueur qui vit pour ça. Et puis, on n'est pas surpris que ces situations-là et ces moments-là sont dans la tête des gens. Parce qu'au final, c'est un joueur qu'on connaît, qu'on reconnaît pour ces moments-là. Donc, Ouais, c'était assez marrant et puis c'est cool qu'il ait pu marquer parce qu'au final, le t-shirt dans le but n'est pas valable. Quoi.
Oui, c'est ça, mais il avait déjà tout planifié. Il s'est dit, je vais marquer sur ce match-là et tout. Parce que Balotelli a une telle inconstance aussi qu'il pouvait se dire, il ne va jamais marquer, surtout pas dans le derby. Et puis là, on comprend très vite, vu le scénario, le doublé de Balotelli et tout, les buts, ils défilent. Il y a eu quelques matchs comme ça dans la première ligue. Il y a eu le 8-2 de United contre Arsenal. C'est des matchs, finalement, où, pour en avoir parlé avec certains, où. Enfin, je ne sais pas si tu me confirmeras ou pas, Gaël, mais on a l'impression que finalement, les joueurs adverses qui subissent la défaite contrôlent plus grand-chose finalement. C'est les buts défilent et puis on se dit, c'est perdu. Et dans ces jours-là, c'est un jour vraiment à part où finalement, il peut à peu près tout se passer et c'est catastrophe du début jusqu'à la fin, quoi.
Ouais, c'est sûr, quand ça commence, et puis en plus, on parle quand même de grosses équipes, quoi. United à Old Trafford, c'est très, très costaud, donc je pense que c'est... C'est aussi un sentiment d'impuissance sur le jour, en tout cas, sur le moment présent. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas voir ça, parce qu'au final, on est tous des compétiteurs et on a envie de toujours plus donner, mais c'est quelque chose dans lequel on n'est pas habitué. On se retrouve dans une situation qui est compliquée, qui est délicate, un peu à l'image du Allemagne-Brésil. C'est quelque chose qui n'explique pas, mais voilà, quand on est dans la machine et quand ça défile, c'est très difficile de reprendre pied. Et puis, c'était le bonheur des citizens ce jour-là, quoi.
Et Salim l'évoquait aussi en termes de large victoire. Ça fait partie des plus larges victoires qu'il y a eu dans ce derby. Mais ce n'est pas la première pour City à United. En 1926, ils avaient déjà collé 6-1 à United chez eux. En 55, ils mettent un 5-0 aussi, pas mal. Et donc, en 2011, il y a cette large victoire. Donc, sur les 4 plus larges victoires qu'il y a eu dans ce derby, il y en a 3 qui sont en faveur de City, ce qui est assez dingue. En fait, quand on y pense, on aurait tendance à croire que United avait mis quelques fessées par le passé, mais non, c'est City qui domine à ce petit jeu-là.
Et Gaël, vous et tous vos coéquipiers, vous avez même réussi à l'issue du match à dégoûter Sir Alex Ferguson qui était totalement dépité.
C'était un mauvais jour, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était notre pire jour. On se relèvera après, c'est un challenge. La chose qui me dérange, ce sont les buts. C'est un match à 10 buts de différence. Ça a été un gros coup dur pour nous.
Cette fin de saison-là, avec donc le titre, Gaël, pour vous et Manchester City, il l'a dit sur Alex Ferguson dans le Sonore, son objectif, c'était de se relever, sous-entendu, les prochaines rencontres, la prochaine rencontre entre les deux. Et la prochaine rencontre, oui, United s'est relevé.
Rooney. Oh, Wayne Rooney. Manchester United have had most of the ball, the majority of the play. Valencia. Now Rafael, the Brazilian fullback. And Rooney, it's two! Back to Tevez. Silva, wonderful save, and then Tevez turns again. Yaya Touré! Tevez. Zabaleta! Percy playing in his first Manchester derby, and Van Persie may well have won that Manchester derby.
C'est affolant, comme des éléments et des commentaires télé. Ben en radio, on arrive à s'en souvenir quand même. C'est très très visuel. Gaël, c'est toujours visuel aussi cette défaite, non?
Oui, bien sûr. C'est pas seulement cette défaite là, mais c'est vrai que c'est des matchs qui sont assez prenants en plus en termes de but et puis l'émotion parce qu'il y a eu un retournement de situation et puis je crois que si je me souviens pas c'est Robin qui marque sur un
c'est
coup,
ça
un
le
coup de cœur
absolument elle est touchée
voilà donc donc ouais c'est des moments spéciaux pour les fans et puis pour les joueurs aussi parce que on vit un peu un ascenseur, c'est un peu l'ascenseur émotionnel et puis de toute manière les matchs contre United c'est jamais des matchs vraiment faciles. Le 6-1 on en rigole et puis aujourd'hui c'est sûr que c'est quelque chose d'assez agréable on prend part un petit peu à la discussion, mais c'est vrai que United, ça reste quelque chose de très solide et justement le fait qu'on parle autant de ces matchs-là et des défaites que United ont pu avoir montre à quel point ils étaient costauds, quoi.
Gaël, vous avez eu la chance d'en disputer, on l'a dit, des derbies. Arsenal-Tottenham, le plus gros de Londres. Manchester-Manchester, celui donc de cette ville. Mais votre regard, je vous prends un peu au piège, désolé Gaël, mais c'est quoi le plus gros derby?
En fait, j'ai envie de dire que ça reste le derby de Manchester. Pourquoi? Parce que simplement, je crois qu'il y a un tel écart entre Arsenal et Tottenham que, bien entendu, sur la carte de Londres, bien sûr que c'est un derby, mais si on parle en termes de résultats, en termes de performances et en termes de trophées, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Tottenham, pendant très longtemps, ça a été juste une équipe qui participait au championnat. alors qu'Arsenal a dominé le championnat, a tenu tête à United pendant de très longues années. Et je pense que sur ce point-là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de derby. Après, le fait d'être à Londres et d'être séparé par juste quelques kilomètres, on appelle ça un derby, mais si on est honnête, le derby du United, c'était, en tout cas, moi, mes années à City, c'était un vrai duel de title contender. Donc voilà, c'était un vrai derby quoi, pour moi.
Ouais, c'est fort hein, ce que dit quand même Gaël, parce qu'on connaît toute la rivalité qu'il y a entre les Spurs et les Gunners, mais c'est vrai que la rivalité City-United, finalement, elle a été pendant un moment... Elle n'existait presque plus parce qu'effectivement, il y avait cette différence de niveau aussi entre City et United qui n'évoluait de toute façon pas dans les mêmes divisions. Donc forcément, ça crée un écart. Et puis ça s'est resserré quand City est revenu, quand City a été racheté, encore plus évidemment, parce que là, la concurrence, elle n'était pas juste au niveau des supporters, mais elle était dans les résultats. Ils se battaient pour les titres l'un contre l'autre. Donc forcément, ça contribuer à dynamiser un petit peu cette concurrence, mais c'est drôle qu'en tant que joueur, voilà, tu nous dises que ce soit du côté de Manchester, parce que c'est vrai que les derbies entre Arsenal et Tottenham, c'était quand même quelque chose.
Non, c'était de beaux derbies, mais vraiment, si on regarde un petit peu...
En termes sportifs, tu veux dire.
Voilà, exactement. Il n'y avait vraiment pas le choix. Il y a vraiment pas le... On ne peut pas comparer. Vraiment, encore une fois, mes 10 premières années à Arsenal, à Londres, en tout cas, c'était une équipe qui jouait pour le titre et puis une équipe qui était dans le ventre mou du tableau. Et ça, ben, en fait, il n'y a pas de comparaison entre les deux équipes, entre les deux clubs et l'histoire des deux clubs, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, même si ça a un petit peu évolué, il n'y a pas photo entre les deux clubs.
Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera pour ce derby de Manchester dimanche prochain à vivre sur RMC Sport City United. Ce sera dimanche à 17h30. La fin de PL Zone, le podcast, épisode 14. Merci beaucoup Gaël Clichy d'avoir été en notre compagnie. Grand merci à vous pour avoir évoqué votre expérience du derby de Manchester. Merci Flora,
merci
Loïc, Samantha Svec et Julie Deroux derrière la vitre. Un grand merci à Rémi Dumont également. N'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter, n'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast pour être alerté à chaque nouvel épisode, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez pas, come on you Irons, ciao.